Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons dans un univers de beauté vraiment historique. C'est d'ailleurs la marque la plus ancienne que j'ai la chance de podcaster. Je pars à la rencontre de Victoire de Taillac pour découvrir la marque L'Officine Universelle Bully. Une marque, oui, 100% française. Mais avant ça, je vais vous resituer le contexte parce que vous ne connaissez peut-être pas la marque. Il faut savoir que c'est une marque qui a été fondée à l'époque par Jean-Vincent Bully, un parfumeur français qui ouvrira d'ailleurs une première boutique à Paris en 1803. Ce monsieur a inventé le vinaigre de Bully, c'était un vinaigre aromatique, mais qui a connu son heure de gloire au début du 19e siècle, avant, malheureusement pour lui, de finir ruiné par la révolution de 1830. Alors oui, on rentre bien dans l'histoire là. Et d'ailleurs, il faut tout de même savoir que ce Jean-Vincent Bully inspira chez Balzac le personnage de César Birotteau. Et c'est en 2014 que Victoire de Taillac et son mari réveillent l'officine du 19e siècle. Ils bousculent les codes de la cosmétique et reprennent la marque Bully. Aujourd'hui, cette marque, c'est un peu l'officine universelle dédiée aux produits de cosmétiques. Les packagings ont l'esthétique ultra travaillée avec un côté rétro, une typo spéciale façon plume d'oie, vous voyez ce que je veux dire ? Les flacons sont en verre teinté, sont impeccablement alignés et contiennent des matières brutes telles que des huiles, de l'argile, de l'eau, des poudres, de l'encens, venus du monde entier. D'ailleurs, quand on rentre dans la boutique, on a envie de tout ouvrir, tout toucher. En parlant de boutique, plusieurs boutiques existent et sont de vrais bijoux qui ressemblent à des officines anciennes avec des comptoirs d'apothicaire en noyer, du marbre, des plafonds de bois sculptés, des pierres de Toscane au sol. En fait, quand on rentre dans la boutique, on a l'impression qu'elle se trouve là depuis 150 ans. Allez, en place avec Victoire de Taillac pour en connaître davantage sur cette marque de beauté historique. Et j'espère sincèrement que ça va vous passionner autant que moi. Bonjour Victoire.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire où nous sommes actuellement ?
Alors, nous sommes actuellement chez Hors Saison, très précisément, qui est un de nos projets au 45 rue de Saint-Onge avec l'officine universelle Bully et le café Tortoni.
En quelques mots, qui es-tu, Victoire, et d'où viens-tu ? Je sais que c'est compliqué comme question.
On a toujours l'impression de par quoi on va commencer, on va choisir la mauvaise façon de se présenter. Non, bah, je m'appelle donc Victoire de Taillac-Toimy, j'ai 44 ans et je dirige l'officine universelle Bully avec mon mari. Voilà.
Oui. Ok. Et vous êtes née en France
Alors d'où je viens? Alors là, c'est plus compliqué. Je suis née à Beyrouth, au Liban,
d'accord,
où mes parents vivaient. Et je vis à Paris depuis que j'ai un an et demi. Voilà. Et donc on peut dire que j'ai grandi à Paris depuis mon enfance et mon adolescence. Et par contre, après, j'ai voyagé en tant qu'adulte.
Alors juste pour resituer le contexte, qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir la marque Bully?
Non, bah, ça dépend exactement à quel point...
Un petit peu avant, alors.
À quel début de ma carrière professionnelle on commence. Juste avant, en fait, je travaillais sur deux choses. Je travaillais d'abord avec mon mari pour Cyr Trudon, que mon mari a repris avec un associé et relancé en 2007. Donc ça, c'est ce que nous avons fait à peu près jusqu'à un an avant la reprise de Bully. Et je travaillais aussi avec ma sœur Marie-Hélène de Taillac, qui est une joaillière. Voilà. Donc j'avais ces deux activités.
D'accord. Et il y avait Colette, juste avant ?
Alors, mon premier travail était d'être attachée de presse de Colette, et j'avais 22 ans. Et j'avais ça de 22 à 27 ans.
Très bien. Et peux-tu me dire qui était Jean-Vincent Bully ?
Alors, Jean-Vincent Bully est le fondateur de la marque dont nous avons repris. C'était un parfumeur français du 19e qui a connu un grand succès et qui, en fait, a été un personnage assez médiatique parce qu'il a eu... ce qu'on appelle un self-made man, donc quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a inventé ce vinaigre de toilette qui lui a valu un prix à l'exposition universelle, qui a été un grand succès, peut-être une espèce de crème Nivea de son époque, en fait. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui a eu des périodes où la situation politique en France était assez compliquée, donc en fait, qui grosso modo a tout perdu. Voilà. Donc c'est pour ça que ce personnage a sans doute inspiré Balzac pour César Birotteau. Et c'est vrai que ça donne un écho un petit peu particulier à la marque.
Alors, à quel moment décides-tu, avec ton mari, de reprendre la marque Bully ? Quel a été le déclic ?
En fait, c'était le déclic. À l'époque, on habitait à New York. On était partis vivre pour Cyr Trudon. Et donc, quand mon mari a revendu à son associé, on n'était pas du tout arrêtés sur ce qu'on allait faire. Et en fait, on a vu, un peu par le hasard, mais ça, c'est la vie, un catalogue de beauté du 19e siècle. Et on s'est dit... les flacons, la façon dont les choses étaient dites, que c'était exactement ça dont on avait envie. Et donc, ça a été un petit peu le point de départ de cette idée qui, après, s'est construite de nombreuses façons, c'est-à-dire quelle marque existait, qu'est-ce qui pourrait plus le faire écho aux Parisiens. Voilà. Et c'est comme ça. Mais c'est vraiment, en fait, par le biais à la fois de cette esthétique du 19e qui est très particulière, très française, et aussi par les mots qui sont utilisés. C'est-à-dire, tout d'un coup, quand on a vu des choses qui s'appellent les virginales, eau super fine, huile antique, voilà, il y avait quelque chose évidemment d'assez désuet, mais de très séduisant.
Aujourd'hui, qu'est-ce que Bully exactement, et quels sont les produits de beauté qu'on peut découvrir chez vous? Parce qu'à la base, c'était surtout des parfums.
Vous avez toujours pu trouver chez Bully parfois, par exemple, des parfums comme l'eau tripe à la rose, mais aussi de la poudre de pétales de rose, ou même un opia dentaire. Ça fait partie du premier catalogue de la marque. Donc c'est vrai que les gens ont souvent une idée qu'avant, les gens étaient sales, et donc c'était effectivement du parfum. Mais en fait, il a toujours existé des produits d'hygiène et des produits de soins. En fait, ça fait partie d'un désir universel de prendre soin de soi. Et donc on a vraiment respecté le catalogue d'origine. Il y a une seule chose qui évidemment est un ajout moderne, c'est tout ce qui va relever plus des parfums d'atmosphère, parce qu'évidemment les bougies parfumées sont un produit moderne et les allumettes sont des inventions. Et voilà, mais sinon tout était sur le premier catalogue. Ce qu'on a fait évidemment, c'est qu'on a enrichi, puisque par exemple dans tout ce qui est la sélection de beauté au naturel, donc je parlais de la poudre de pétales de rose, mais on a 85 huiles de plantes différentes, et donc c'est évident que chez Jean-Vincent Bully il n'y avait pas 85 huiles de plantes différentes. On a accès maintenant à beaucoup de choses, et c'est pour ça que nous avons décidé d'appeler l'officine universelle Bully, puisque l'idée c'est de réunir au sein de Bully des choses qui viennent du monde entier.
Oui, c'est vrai que vous avez changé le nom en fait.
Oui, je pense que c'est une façon. Alors évidemment, nous avons changé le nom, donc le nom d'origine de la marque c'est Jean-Vincent Bully, qu'on a décidé d'appeler officine universelle Bully. Je pense que c'est important quand on reprend une marque de se la réapproprier. D'une certaine façon, c'est normal, les enseignes et les marques évoluent. Donc officine universelle Bully, on a aussi retiré un L.
J'ai lu que ton mari disait dans un article « Ma mère n'a jamais acheté un produit cosmétique et elle a une peau parfaite. Elle colore ses lèvres au acre, un fard composé de pétales de coquelicot. Cette beauté naturelle fabriquée à l'ancienne, c'est exactement ce que vous vouliez dès le départ et que vous faites toujours aujourd'hui. »
Oui, bien sûr. C'est en fait d'abord parce que ça fait écho à plusieurs choses. Donc à l'histoire personnelle de Ramnam, ce qui est sûr avec sa mère qui prenait soin avec vraiment des secrets de beauté traditionnels, dont la kerfassie qui citait, mais aussi au fait que je vous dis, dès le début, en fait, avant, comme il y avait une vraie connaissance de ce qu'on fabriquait à la maison, il y avait une certaine façon des choses qui étaient en accès, qui sont un petit peu des produits bruts, enfin nous on appelle comme ça, et c'est vrai que dès le début, ça, c'est quelque chose dans ce projet qui nous a intéressés, parce qu'avec Ramnam, on est très passionnés par toutes les cultures traditionnelles, et donc pour nous, avoir la chance de pouvoir voyager et voir comment est faite de l'huile de camélia au Japon. Ramnam a été récemment voir de l'argan avec une vieille dame berbère, etc. Et ça, c'est ce qui nous passionne dans ce métier. D'abord, il y a ce côté recherche permanente, c'est-à-dire qu'en fait, vous entendez quelqu'un qui vous parle de quelque chose. Ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être... Ou parfois, vous êtes là, vous voyagez, vous allez trouver un accessoire dont vous n'avez jamais... donc vous n'aviez pas imaginé. Et ça, c'est ce qui nous passionne. Mais comme après, développer des produits aussi avec le laboratoire, ça, c'est pas... Les deux sont pas... Pour moi, les deux démarches sont identiques.
Mais finalement, vous avez toujours été en avance sur votre temps, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui reviennent un petit peu naturelles. Vous, finalement, vous l'avez toujours été depuis le début.
Oui,
on peut dire ça.
Notre premier vrai projet de beauté avec Ramnam, c'était une boutique qui s'appelait Parfumerie Générale, qu'on a ouvert en 2003, qui était une boutique de cosmétiques niche, qui était dans une toute petite impasse du 8e. Et on a distribué beaucoup de marques qui ont eu énormément de succès comme Rennes. Et en fait, ça me frappait beaucoup comment on commençait à faire attention à ce qu'on mangeait, mais pas tellement aux produits de beauté en termes de formulation. Et donc, pour moi, c'est vraiment un questionnement qui date du début des années 2000. Et donc, c'est un questionnement qui nous a pas quittés. Mais ça a vraiment commencé là. Et en fait, je dirais que quelque chose qui me fait toujours plaisir, quand on a réouvert Bully, donc Rue Bonaparte, on a eu des clientes de Parfumerie Générale qui sont venues et qui m'ont dit, en voyant dans la boutique, j'étais une cliente de Parfumerie Générale. Et pour moi, Bully, c'est un petit peu la réunion de ces deux projets. Voilà, ce côté curiosité, ouverture vers le monde, ramener des choses du monde entier qu'il y avait dans Parfumerie Générale, et après évidemment avec une esthétique radicalement différente, puisque Parfumerie Générale était très moderne.
Et aujourd'hui, tous vos produits sont fabriqués en France?
Alors, en fait, tous nos produits sont fabriqués en France ou sont mis en bouteille en France. C'est-à-dire quand, par exemple, on achète de l'huile de babassou au Brésil, on va la recevoir, mais elle va être produite au Brésil. Et quand on parle de production, donc ça va être une première pression à froid, c'est une production biologique, et voilà, mais ce sera mis en bouteille en France. Et par contre, effectivement, on a des peines qui viennent de Suisse, un gratte-langue qui vient d'Inde. Enfin, vous voyez, on achète des choses dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'en termes de produits cosmétiques, ce sera vraiment fabriqué en France.
Est-ce que tu peux nous faire rêver, nous citer quelques noms de produits Bully? Parce que c'est vrai que c'est des jolis noms à l'ancienne.
Oui, oui, là, c'est des jolis noms à l'ancienne qui parfois font rire les clients, comme par exemple la pommade virginale, un grand succès. Mais moi, par exemple, j'aime beaucoup l'idée de l'eau triple, qui est notre parfum, ce qui veut dire triplement concentré. Donc l'eau triple tubéreuse du Mexique, l'eau triple lichen d'Écosse. Les noms sont les noms d'origine et ça fait écho à une vision un petit peu fantasmée de l'étranger, ou le miel d'Angleterre, où tout d'un coup les clients disent « Mais qu'est-ce qu'a spécial le miel d'Angleterre ?» Et bien au 19e, le miel d'Angleterre était vu comme très exotique.
Ah oui.
Et voilà, qu'est-ce qu'on a? On a donc le lait virginal, l'huile antique, les opiats dentaires qui sont le nom d'origine des dentifrices avant qu'on, je ne sais pas quand.
Avant le mot dentifrice.
Avant le mot dentifrice, je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Par contre, j'ai pas recherché. Et c'est vrai que je trouve que les mots sont des choses qui pour moi m'habitent beaucoup. Donc je trouve que c'est très agréable d'avoir des noms de produits qu'on a plaisir à dire.
Et les nouveaux noms de produits, c'est vous qui les trouvez?
Oui, bien sûr. Alors, par exemple, mon mari est très doué pour les noms. Il a vraiment un talent là-dessus. Donc, par exemple, nous lui devons effectivement l'eau de la belle haleine, qui, je trouve, est un grand succès. Voilà. Je ne sais pas si c'est très élégant, mais un grand succès. Mais c'est vrai que c'est amusant quand on vit à l'étranger, parce qu'en fait, on est français, donc on oublie. Mais c'est vrai que quand je vais travailler au Japon et qu'effectivement, ils sont... Et voilà, ils disent les virginales et l'effort que ça implique pour eux.
Oui,
voilà.
Ça ne doit pas être facile.
Eh bien non, c'est un cours de français en permanence.
Ce produit. L'officine universelle Bully, c'est autant pour les femmes que les hommes.
Oui, bien sûr.
En boutique, vous avez...
Autant d'hommes que de femmes, d'accord, depuis le premier jour. Et ça, c'est vraiment... c'est pas quelque chose que j'attendais spécialement, mm-hmm, parce que d'abord, de notre préférence, expérience de parfumerie générale, on avait quand même plus de femmes que d'hommes. Mais en fait, je pense que Bully n'est pas un environnement particulièrement féminin. Et en fait, les clients sont... Enfin, donc les hommes sont des très bons clients cosmétiques. Ça, je pense que c'est une chose que les gens oublient. C'est-à-dire qu'ils utilisent en moyenne moins de produits qu'une femme. Mais par contre, ils sont très exigeants sur les produits qu'ils utilisent. Ils ont des critères très précis. Donc que ce soit une crème pour les mains, un dentifrice, une lotion nettoyante pour le visage, il va y avoir un vrai... il va y avoir
il se pose des vraies questions.
Ah oui, vraies questions, et puis t'es très exigeant, très clair, donc c'était assez amusant. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément une chose auquel je pensais, ou par exemple l'amour des savons parfumés, voilà. Des choses comme ça, on voit qu'il y a une espèce de pour des clients plus âgés, il y a des produits de beauté qui sont tolérés, par exemple le savon parfumé en est un, et puis évidemment l'amour des accessoires, c'est-à-dire que le peigne, quel peigne, le gant de crin, quel gant de crin, voilà, là c'est quelque chose aussi qui ne leur paraissent pas trop féminin.
Et ils viennent aussi acheter pour une amie ou une femme?
Oui, bien sûr. Tout le monde vient faire des cadeaux chez nous. Donc ça, il n'y a pas autant les hommes que les femmes. Mais la démarche va être différente.
Et quel produit tu me conseillerais, ou alors à mes auditrices, si elles devaient acheter un produit de ta marque pour la découvrir? Qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Ah, c'est drôle dans ce sens-là. Je n'ai jamais réfléchi. Quel produit
c'est
essayer?
C'est une bonne question.
Je pense que j'irai entre deux choses, parce qu'après, c'est trop difficile d'en dire qu'un. Je pense que, par exemple, si on aime les huiles, l'huile antique est un produit extraordinaire. C'est l'huile antique, c'est une huile qui est, pour le corps, qui est parfumée, qui est un mélange d'huile de coco, d'huile d'abricot et de sésame. Et c'est vraiment extraordinairement agréable à utiliser, parce que d'abord, ça assouplit vraiment la peau, et puis en plus... l'huile porte merveilleusement bien les parfums, donc on est vraiment dans l'odeur. Et moi, je trouve que c'est très agréable pour le corps, d'avoir ce type de produit. Voilà. Et après, pour le visage, j'ai une tendresse particulière pour l'eau super fine, qui est une lotion florale avec de l'eau de rose, avec un parfum très léger, et qui est vraiment un produit dont j'aime beaucoup l'usage le matin, quand on se réveille. Mais bon, en choisir un, c'est vraiment trop dur, parce qu'évidemment, après, je peux... J'en choisirais 5, ça irait, mais c'est trop dur, donc je comprends et je dis 2, mais ça suffit.
Tu peux en donner un troisième si tu veux.
Non, et après, bon, voilà, effectivement, je crois que tout le monde devrait avoir une huile de plante dans sa routine beauté et qu'il faut choisir la sienne. Personnellement, j'aime beaucoup l'huile de pépins de framboise. Mmh. Et je trouve que, en fait, avoir dans sa routine beauté un produit avec un seul ingrédient unique, voilà, on voit vraiment les bénéfices sur la peau. Parce que dans la beauté, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a aussi une forme, voilà, c'est, l'efficacité est importante. Vous voulez voir les résultats sur votre teint, sur la qualité de votre peau, sur la façon dont vous la sentez aussi, puisque la peau parle beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'espère que les gens qui viennent chez nous, même si parfois ils viennent d'abord pour un parfum ou pour un cadeau, après on leur donne le catalogue et ils peuvent prendre le temps de découvrir les huiles de plantes parce que c'est passionnant.
Ouais. On a compris que tu voyageais beaucoup. Il y a beaucoup de matières brutes qui viennent des quatre coins du monde. Comment es-tu inspirée pour la création d'un nouveau produit ? C'est grâce à tes voyages ? C'est un peu tout.
Oui, il n'y a pas de... Bon, d'abord, c'est, comme je dis, ça reste quand même un travail d'équipe. Donc, ça peut être justement quelque chose qui revient régulièrement, à la fois des clients, à la fois une idée qu'on a en tête, à la fois tout d'un coup un usage, ou à la fois quelqu'un qui fait quelque chose qu'on trouve vraiment bien. C'est-à-dire, je ne sais pas, enfin, je vais donner un exemple qui va faire rire, mais bon, mon mari qui a absolument adoré son usine, l'usine de fil dentaire qu'il a vue en Italie, dont il a trouvé le travail admirable. C'est pas très rationnel et c'est ça l'avantage, moi, je trouve, des pour les lectrices qui nous écoutent. C'est pour ça que moi, j'aime tellement les petites sociétés, c'est qu'on fait des vrais choix qui ne sont pas forcément rationnels parce qu'il y a vraiment une facilité de décider que tout d'un coup, bah, c'est le moment de faire un fil dentaire noir, gansé de cire d'abeille ou de ramener de l'huile de babassou du Brésil. Et c'est ça que moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est les prises de position que font les petites marques quand elles inventent un nouveau produit ou quand elles trouvent quelque chose.
Et tu as vécu à Tokyo ?
Oui, on a habité à Tokyo un an pour ouvrir la société japonaise et ouvrir notre première boutique. Ouais.
Qu'est-ce que tu as pensé de la beauté des femmes là-bas ?
Qu'est-ce que j'ai pensé de la beauté des femmes ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects différents dans la beauté japonaise, donc c'est difficile d'en parler comme ça. Ce qui est très frappant, c'est vraiment une vraie culture de soins du visage, c'est-à-dire que les femmes vont avoir des très belles peaux, vont faire vraiment attention au soleil comme nous ne ferons jamais attention au soleil, parce qu'effectivement le parapluie l'été, c'est une chose qui nous dépassera toujours, mais il n'empêche que donc on voit des très très jolies peaux, des très jolis grains de peau. Je vois par rapport à ce que nous vendons que donc les gens sont habitués à faire des efforts pour leur peau. Donc par exemple, il n'y a aucun problème à acheter une argile, une poudre pour faire un masque, pour faire un gommage, alors qu'une cliente française va avoir tendance à trouver ça un petit peu compliqué au premier abord, tandis que là, la problématique va être complètement différente. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi une culture du toucher qui est assez différente, c'est-à-dire qu'il y a une vraie culture de l'automassage. Et donc ça, c'est quand même assez présent dans leur façon d'appliquer les produits ou dans leur façon d'imaginer. Voilà. Et moi, ce qui m'a le plus touché, mais donc c'est un peu plus large que la beauté, c'est leur rapport à l'eau en fait, parce que donc le Japon est un pays où il pleut beaucoup, un pays de forêt, donc l'eau est quelque chose qui est très présent, et donc c'est un pays aussi d'onsen, de sources thermales, et donc il y a une vraie culture du bain, une vraie culture de prendre son bain propre, de rester dans l'eau chaude, des vertus de l'eau, et ça, moi, c'est quelque chose qui est que d'abord j'apprécie beaucoup et puis qui je trouve est très particulier aussi.
Alors justement, vu que tu as beaucoup vécu à l'étranger, à New York, à Tokyo, lorsque tu reviens en France, est-ce que tu te dis quand même il y a une beauté française ou pas ?
Voilà, pour être honnête, il y a
c'est
quand même...
C'est un podcast beauté en même temps, bien il faut sûr, parler de la beauté.
J'allais dire, oui, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent en France et que je suis très contente de retrouver quand je reviens. Oui, je trouve que... Alors oui, je vais dire quelque chose, mais alors après, c'est plus la façon dont les Françaises vivent la beauté que j'apprécie beaucoup. En fait, je trouve qu'il y a une vraie liberté dans la façon d'interpréter les choses, que ce soit en termes d'esthétique, que ce soit dans les choix qu'on fait, de est-ce que ce seront des cheveux sensationnels, est-ce que ce sera des mains impeccables, est-ce que ce sera un parfum. Et j'aime bien cette espèce de féminité, en fait, très choisie. Voilà. Et j'apprécie, j'aime beaucoup la culture de la pharmacie, puisque c'est quand même beaucoup de l'endroit où les Françaises achètent leurs soins de beauté. Donc ça aussi, je trouve que tout ça est au coin de la rue quand même tout le temps, donc c'est drôle. Et puis je trouve ça plus agréable d'aller dans une pharmacie que dans un drugstore, par exemple, américain.
Ça te manquait à l'étranger?
Non, pas vraiment, parce que alors après à l'étranger il y a d'autres choses, donc mais par contre je trouve que c'est amusant, parce que ça c'est une façon très française d'acheter des produits de beauté. Mais bon, c'est normal. Je suis française, donc je suis très sensible à la féminité française, qui pour moi est très liée à la beauté. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible à une façon dont, française qu'une américaine, par exemple.
C'est sûr. Alors, vous avez ouvert une première boutique à Paris en 2014, c'est ça ? Celle-ci, elle est située où exactement ?
La première boutique que j'aime beaucoup est située au 6 rue Bonaparte, à côté des Beaux-Arts, juste avant la Seine. Et c'est vraiment le succès de cette première boutique qui a fait qu'on en est là 5 ans plus tard.
Il y en a une deuxième ?
Il y en a une deuxième, donc, et celle où nous sommes aujourd'hui, au 45 rue de Saint-Onge, et donc on a donc dans le Marais, et là, donc on a deux boutiques à Paris.
Et il y en a à l'étranger maintenant ?
Et il y en a un certain nombre à l'étranger maintenant.
Bravo, en 5 ans.
Oui, c'est une belle histoire, mais c'est très amusant, parce que comme Bully est très français, qu'on a une vraie vision de la beauté, qu'on partage ça, on voit qu'il y a un vrai engouement à l'étranger pour ce que nous faisons nous, mais pour ce que font aussi d'autres marques. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on a beaucoup de chance que la France soit perçue comme ça, en fait. Et c'est pour ça que quand on rentre en France, je trouve, de l'étranger, quand on ne vit qu'en France, on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance en France en termes de qualité de vie et en termes de talent aussi. Tellement de choses formidables en France et faciles qu'on oublie. Et c'est vrai, quand on va à l'étranger, qu'on a la chance de faire un métier où forcément les gens ont l'impression que vous incarnez un petit peu ce petit bout de France. En tout cas, moi j'incarne cette espèce de française comme ça, brune, etc., pas coiffée, enfin voilà. Je suis un cliché à moi toute seule en Asie. C'est vrai que, et on voit que pour eux, ils ne trouvent que des qualités à la France. Alors quand ils viennent, malheureusement, ils vont revenir à la réalité sur certains aspects. Mais sinon, ils ont vraiment, on a beaucoup de chance. Voilà. Et c'est vrai que pas beaucoup de pays sur le fait que tout d'un coup, c'est Made in France, et ben ça va être plus 10. Donc ça, c'est quand même un très grand cadeau.
C'est sûr. Non, ils sont surtout choqués à l'aéroport, je crois.
Je crois que l'aéroport est le premier début de la réalité. Exactement. Et c'est vrai que pour être arrivé récemment, il y avait donc une heure de queue en arrivant au passeport, puisque malheureusement deux avions très grands étaient arrivés en même temps et qu'il y avait juste trois douaniers. C'est vrai, quand on arrive d'Asie, où grosso modo vous sortez de la douane en 20 minutes, enfin tout ça, ce ne sont pas des vrais problèmes dans la vie. Mais c'est sûr que je pense que tout d'un coup là, et puis après ils ont le sympathique chauffeur de taxi qui a progressé, mais les progrès sont moins notables chez certains que chez d'autres.
Puis la visite de Charles de Gaulle, quand même.
Et sans doute des toilettes de Charles de Gaulle, on peut le dire.
Alors, on va parler de ta beauté à toi.
Très bien.
Quel est ton premier geste beauté le matin ?
Alors, le premier geste beauté le matin. Alors, en fait, c'est... Oui, on va répondre en toute honnêteté. Le premier geste beauté, ça va être de me rincer la bouche assez longuement.
Voilà. C'est un geste beauté.
Ah voilà, alors ça c'est vraiment le premier geste beauté, avant que je puisse boire de l'eau chaude. Et puis après, non, après il y a plus de gestes, mais s'il faut que je développe, je développe.
Non, mais justement après je te demande quelle est ta routine beauté idéale pour commencer une journée au travail.
Très bien, alors donc d'abord c'est pas forcément que pour aller travailler, ma routine beauté idéale, heureusement, la vie ne se limite pas à ça. Mais non, donc après effectivement avoir cette impression, j'aime beaucoup en fait le rituel de beauté, gants douche où on fait ça avec de l'huile, mais je n'ai pas toujours envie de le faire avec de l'huile, donc parfois j'ai juste ma bouche avec de l'eau. Mais après, non, je vais avoir un rituel de beauté. Donc, j'aime énormément le brossage à sec.
Attends, je reviens, tu rinces ta bouche à l'huile ? C'est ça que tu as dit ?
Oui.
Connaissais pas. Je veux bien que tu développes un petit peu.
Très bien.
Tu connaissais ? Non.
En fait, c'est l'idée qu'en fait, le matin, quand vous dormez, donc vous produisez moins de salive et donc il y aura plus de dépôts. Et donc, l'idée pour avoir une bouche très propre, c'est que vous pouvez, donc ça s'appelle gants douche, c'est un rituel ayurvédique avec une huile de plante, donc ça peut être sésame, ça peut être autre chose. Vous en prenez dans la bouche, vous la faites tourner dans votre bouche pendant assez longtemps et après vous la recrachez. C'est un espèce de nettoyage, c'est très agréable, c'est très propre. Mais disons que je vais le faire qu'à certaines périodes et pas régulièrement. Mais disons que j'ai gardé la même idée, juste avec de l'eau, sans dentifrice, puisque ça arrivera dans un deuxième temps. Voilà. Effectivement, après, je vais pouvoir me brosser les dents. Voilà, parce que sinon, j'ai l'impression de me brosser les dents, alors qu'en fait, ça a besoin d'un peu plus de... Voilà. Et en fait, après, non, donc j'aime beaucoup le brossage à sec. Donc j'ai une brosse en crin cuivre que nous vendons. Et que j'utilise, peut-être depuis 15 ans. Et enfin, pas celle-là en particulier, mais ce geste en tout cas. Et donc ça consiste à donc, se brosser des pieds à la tête selon un certain ordre. Et donc c'est très, moi j'aime beaucoup parce que ça donne beaucoup d'énergie, ça réveille vraiment, parce qu'en fait ça fait circuler le sang, c'est un espèce de drainage lymphatique.
Mais le visage aussi ?
Non, pas le visage, je m'arrête ici. Et en fait après, c'est aussi un effet vraiment très net sur l'aspect de la peau en fait. Donc par exemple, je crois que vraiment, crème anticellulite, je ne sais pas si j'y crois beaucoup, mais en tout cas la brosse crin cuivre, je trouve que ça améliore nettement. Et voilà, et après qu'est-ce que je fais d'autre ? Donc ça c'est le corps.
Le visage.
Après je vais sans doute d'abord peut-être prendre une douche et après je vais passer au visage, et donc je vais utiliser l'eau super fine, et là les jours ça va dépendre, soit je vais mettre, on a une crème qui s'appelle la pommade virginale que j'aime beaucoup, ça ce sera un jour où j'estimerai que ma peau va grosso modo, mais si c'est un jour où je suis plus fatiguée avec une plus longue journée etc, j'utiliserai de l'huile et donc vraisemblablement de la pépin de framboise, ou si j'ai plus de temps je peux utiliser une autre huile qui s'appelle Buriti, qui est une huile amazonienne avec une couleur très très orange rouge. Et donc, il va demander un petit peu plus de temps à la peau pour pénétrer. Et donc là, ce sera vraiment si voilà, je ne suis pas dehors en 5 minutes. Mais je n'aime pas être dehors en 5 minutes. Donc, idéalement, ce n'est pas ça. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Et après, ça peut mettre de l'huile antique, de l'huile virginale sur le corps. Mais c'est à peu près ça, ma routine.
Donc, tu peux mettre de l'huile le matin sur le visage ? Parce que tout le monde ne fait pas ça, hein, je pense.
Alors, je tiens, c'est une énorme révélation. Vous pouvez mettre de l'huile le matin sur le visage si vous utilisez une huile de bonne qualité. D'abord, ça va très bien pénétrer et donc vous n'allez pas briller. Et ça dépend aussi de la quantité que vous appliquez. Si vous mettez 2-3 gouttes, tout va bien. Voilà, maintenant, il y a des huiles qui sont plus ou moins, à une texture plus ou moins épaisse. Donc, il suffit de choisir la bonne. Mais c'est vrai que je trouve que quand on est particulièrement fatigué ou quand il fait très froid dehors ou quand on est stressé, tous ces moments où la peau est un peu plus en demande, l'huile est très efficace. Non, c'est vrai, les gens sont étonnés. Alors après, je comprends, je trouve que pour un premier usage d'une huile, c'est plus facile de le faire le soir.
Oui.
Parce qu'évidemment, les gens sont habitués à des textures type sérum ou d'autres choses, donc ça va moins les intimider. Donc comme tout le monde, j'ai commencé par le soir dans ma vie. Mais maintenant, non, ça peut vraiment... Matin ou soir, ça m'est complètement égal. Ça dépend vraiment comment je sens ma peau.
Et justement, j'ai vu que tu étais une obsédée de l'hydratation.
Oui, à la fin, on dit beaucoup de bêtises, mais effectivement, maintenant, j'ai pas changé d'avis, c'est-à-dire qu'effectivement, je continue à penser que. Mais en fait, on parle aussi toujours à travers, vous savez, on voit le monde un peu à travers soi-même. Donc personnellement, j'ai eu toute ma vie une peau sèche. Je dirais que maintenant, avec les huiles, on est arrivé à l'équilibre et que je la trouve plutôt normale sèche qu'autre chose. Mais par contre, et c'est vrai que les gens ont un peu peur de l'hydratation. Il y a cette obsession de briller qui, par exemple, n'est pas du tout une obsession que j'ai. Donc, c'est drôle. Mais voilà, mais maintenant, je vois, mais plutôt à travers mon expérience avec les clients, qu'en fait, la façon dont on nettoie ce visage a tellement d'importance. Et ce n'est pas tellement parce qu'il faut avoir le visage propre, mais c'est parce qu'en fait, il y a des rides. Rituels de nettoyage qui font tellement de mal à la peau. Mmh. Et en fait, très souvent, en fait, c'est drôle, donc j'ai vraiment commencé, mais ça, c'est l'expérience d'être vraiment derrière le comptoir, où vous dites au client, mais comment vous nettoyez le visage ? Et le client va vous dire quelque chose et vous allez vous dire, oui, peut-être un petit peu plus de douceur, en fait.
Ouais.
Voilà, on peut voir vraiment des gens qui peuvent utiliser, je sais pas, en Asie, jusqu'à une quinzaine de produits différents de nettoyage par jour. Ou par exemple, des clientes américaines qui peuvent faire Clarisonic matin et soir. Comment dire que ça relève plus du décapage que d'une hygiène de propreté. Ouais, en fait, c'est très drôle parce que ça a un peu changé ma perspective. C'est-à-dire que je pense que l'hydratation est toujours, est toujours une forme de solution. Mais en fait, le problème, à mon humble avis, se situe souvent dans le nettoyage. Mmh. Des problèmes de peau.
Enfin, tu te maquilles pas beaucoup ?
Non, je me maquille pas beaucoup parce que j'ai pas tellement un talent pour ça, pour être honnête. Donc j'ai rien contre le maquillage. Je sais grosso modo mettre du rouge à lèvres et du mascara. J'ai jamais tellement aimé le teint parce qu'en fait j'aime une espèce de transparence dans le teint. Alors quand je suis bien maquillée, quelqu'un le fait, j'ai rien contre. Mais c'est vrai que c'est pas tellement moi. Ah. Mais par contre, non, c'est vraiment... très personnel.
Ouais. Mais est-ce que tu as du coup le rituel du démaquillage quand même le soir ?
Après, j'utilise un de nos produits qui s'appelle la lotion hygiénique simplement rectifiée, un très joli nom de mon mari. Et après, et donc ça c'est voilà, et ça c'est, mais ça va être pour, dans mon cas plutôt, je trouve, pour enlever la pollution, pour avoir une impression de propreté. Voilà, je trouve que aussi c'est une façon d'être chez soi et que la journée soit finie en fait. Évidemment, ça peut être pour enlever le maquillage ou autre chose, mais je trouve qu'il y a de ça.
Quel est le meilleur secret beauté qu'on t'ait donné ?
Quel est le meilleur secret beauté qu'on m'ait donné ? C'est un peu... Alors, Je viens d'une. Alors j'ai envie de dire d'une famille de femmes. En fait, j'ai un papa qui n'est plus, mais j'ai une grand-mère très élégante, avec toujours son rouge à lèvres, avec son très joli parfum Guerlain, très parisienne. Ma mère est comme ça, mais en utilisant aussi très peu de produits de beauté. Donc je crois, grosso modo, j'ai vécu avec cette idée que, donc évidemment, les 100 coups de brosse, ça c'était très drôle.
Ce côté, les 100 coups de brosse.
Vous le connaissez, ce côté, ouais. 100 coups de brosse. Voilà, donc moi j'ai une famille où tout le monde a énormément de cheveux, donc les 100 coups de brosse sont très présents.
On va expliquer ce que c'est, peut-être.
Ah, les 100 coups de brosse. Bah, l'idée, c'est qu'il faut se donner 100 coups de brosse le matin, enfin, je crois, oui, le matin ou le soir, pour, en fait, ça va à la fois dépoussiérer la chevelure, ça va, voilà, faire briller, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait plus jeune, que je ne fais plus du tout, parce qu'en fait, je trouve que mes cheveux préfèrent nettement le peigne à la brosse, mais ça a été une espèce de découverte qui est un petit peu comme un alléluia. Donc, il y a quand même des grands-mamans dans la vie. Et après, effectivement, ma mère est une grande adepte du gant de crin, ce qui n'est pas du tout mon truc, je trouve ça trop dur. Mais j'ai vu effectivement ma mère se brosser à sec toute sa vie, et je pense que c'est pour ça, moi j'aime bien le brossage à sec, c'est sans doute pour ça. Elle trouve que c'est une espèce de... Voilà, c'est comme une hygiène de vie, et c'est vrai que c'est drôle, parce que j'ai plein d'amis qui ont l'impression qu'on se traite comme un cheval, que vraiment c'est un truc. Et pourtant, c'est absolument génial. Donc c'est drôle, mais c'est sans doute donc ça, le meilleur conseil de beauté, c'est le brossage à sec, parce que les 100 coups de brosse, donc ça ne me correspondait pas.
C'est oublié, ça.
C'est oublié. C'est une légende urbaine, peut-être, non? Une légende pas urbaine, mais une légende traditionnelle.
Et quel est ton dernier achat beauté? Est-ce que tu achètes toujours des produits de beauté?
Alors, ce qui est drôle, c'est que j'achète toujours des produits de beauté et surtout, on m'offre beaucoup de produits de beauté. Donc, c'est assez drôle parce qu'en fait, tout le monde sait que j'aime ça. Donc, si jamais quelqu'un a l'impression qu'il y a une marque que je ne connais pas, assez souvent on me ramène des produits de beauté. Donc, c'est dans un style, hein, parce qu'évidemment, on va pas me ramener... Voilà, donc on va me ramener des choses assez précise, assez artisanale, naturelle, etc. Mais donc, de temps en temps, il y a des choses géniales. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est une marque japonaise, parce que je reviens du Japon, qui s'appelle Makunan, je ne sais plus, qui est très présente au Japon. Et j'ai acheté le papier, vous savez, le blotting paper, parce que ma sœur adore celui-là, et j'en ai acheté un lipstick paper qui paraît formidable. Et comme ma fille, qui a 16 ans, se maquille beaucoup, j'ai pensé que peut-être c'était intéressant qu'elle ait ça. Voilà. Donc ça, c'est les derniers achats de produits de beauté que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux acheter? Mais sinon, évidemment, non, je vais pas acheter. Bon, alors voilà, je vais acheter beaucoup de tout ce que je ne fais pas. C'est-à-dire que c'est vrai que j'achète pas tellement de produits visage, mais je vais acheter, évidemment, voilà, tout ce qui va être, je sais pas, shampoing, après shampoing, vinaigre de cheveux, tout ça, ça m'amuse beaucoup. Et puis produits pour le bain, parce que comme j'aime beaucoup les bains, effectivement, et au Japon, par exemple, il y a une vraie culture de salle de bain très amusante. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le genre de choses que je peux acheter encore.
Alors, je vais te demander tes trois indispensables que tu as toujours dans ton sac à main. Mais est-ce que tu as des produits dans ton sac à main?
Absolument pas. Ah. Ce serait beaucoup trop de me demander. Non, je suis très minimaliste. Alors, Je n'ai pas du tout de produits dans mon sac à main.
Même pas un baume à lèvres?
Même pas un baume à lèvres, non, rien du tout. Mais ça, bon, voilà, il faut dire aussi que je vis et je travaille dans une boutique de beauté.
Oui, donc s'il y a besoin...
S'il y a besoin, grosso modo, je vais juste prendre quelque chose au comptoir. Donc, c'est pour ça. Mais après, si je voyage, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux effectivement avoir un baume à lèvres, je peux avoir une crème pour les mains et un peigne, c'est tout.
Oui, bah c'est toujours de la beauté. Hein.
Oui, voilà, mais c'est un petit peu
l'hydratation.
Mais c'est vrai que je voyage quand même avec, par exemple, quand je pars en voyage, je trouve que je voyage avec plus de produits que ce que je voyageais. Je pense que je vieillis. J'ai besoin de plus d'efforts.
Et alors, je sais que tu te maquilles peu.
Ce qui est bien quand on se maquille pas, voilà, c'est quand les gens vous voient maquiller et que vraiment, ils sont éblouis. Alors on se dit, ah oui, donc ce serait comme ça tous les jours peut-être si je me maquillais. Mais je serais très contente.
Par exemple, si ce soir, là, tu as une soirée, oui, est-ce que tu vas... Quel rouge à lèvres tu vas porter?
Ah non, je vais pas. Alors pas aucun. Forcément. Là, en ce moment, je suis vraiment dans une phase très minimaliste, donc je vais pas du tout, je vais rien mettre. Mais par contre, non, je vais remettre, par exemple, un peu avant de sortir, je peux mettre un peu d'eau super fine, je peux réhydrater mon visage si je trouve que je suis pas. Je vais me donner un coup de peigne. Je vais me parfumer. Mais ça va
même
vraiment
pas un
être
peu de mascara.
Et ben en ce moment, je crois que c'est drôle, depuis que je suis rentrée du Japon, je crois que j'ai même pas de. Enfin, je dois avoir du mascara. Oui, puis c'est aussi, j'ai une fille. Voilà, je vis avec une fille de 16 ans qui a tellement de produits de maquillage que vous pouvez pas imaginer. Donc c'est pareil. Donc si vraiment tout d'un coup j'étais d'humeur, en fait j'irais chez Razade. Est-ce que tu peux faire mes yeux?
Oui, c'est elle qui maquillerait maman.
Exactement. Oui, même parce qu'elle maquille très bien. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on fait plutôt les yeux parce que c'est drôle.
Oui, oui. Alors justement, tu m'as parlé de tes cheveux tout à l'heure. Mm-hmm. Là, par contre, t'as un rituel cheveux? Tu testes pas mal de produits
Oui, non, un rituel particulier, non, parce que je mangeais tout le temps. Je vais dire, grosso modo, j'essaye de pas me laver les cheveux tous les 5-6 jours, grosso modo.
Parce que tu as les cheveux quand même épais, longs.
J'ai les cheveux très épais, j'en ai beaucoup, ils sont attachés parce que j'ai fait peut-être une expérimentation hier. Je vais faire ce qu'on appelle des bains d'huile. Donc, je peux faire hier, j'ai essayé de l'huile de brocoli, mais je ne sais pas si c'est très réussi. Et puis après, je vais juste faire un shampoing et un après-shampoing, c'est un petit peu tout. Là, je crois qu'il serait temps que je trouve un coiffeur. Je crois que ça fait partie aussi de l'âge adulte.
Voilà, ils sont attachés.
Oui, c'est pour ça que vous ne pouvez pas juger. Ouais. Mais si vous jugiez, peut-être qu'il est temps que j'ai un vrai coiffeur, en fait.
Et pour parler de beauté des mains, alors je ne sais pas c'est vrai parce qu'on lit des choses dans les magazines ou dans les journaux ou sur les blogs, mais j'avais vu que tu étais très nail art, mais là j'ai pas l'impression.
Alors c'est
aujourd'hui.
Vrai que j'ai beaucoup aimé le nail art, j'en ai pas mal fait, mais maintenant c'est effectivement, je dois moins être là-dedans, mais j'en ai beaucoup fait parce que d'abord quand on habitait à New York c'était quand même très drôle,
oui.
Et puis en plus je trouve que on choisit tous nos trucs, mais effectivement... d'avoir les mains très faites, c'est très amusant. En fait, quand on bouge, en plus, on les voit tout le temps. C'est pas comme le maquillage, donc fait vraiment partie. Voilà. Donc j'habitais à New York en 2010-2012, ça fait un certain temps. J'en ai un peu fait à Tokyo aussi. Et puis c'est vrai que le gel, c'est tellement génial parce que ça tient. Les mains sont toujours impeccables. Voilà. Parce que sinon, je suis quelqu'un qui cuisine énormément, qui jardine. Je jardine beaucoup. Donc là, c'est terrible parce qu'en fait, c'est impossible d'avoir des ongles qui tiennent. En fait, déjà quand vous cuisinez, vous faites la vaisselle raisonnablement, même avec des gants. Ça, c'est voilà. En fait, il faut avoir une vie ou grosso modo, voilà. Mais par contre, bon, le gel, toi, admettre, ça tient très bien. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai dû faire, donc j'aime beaucoup la marque japonaise, ça s'appelle Uka, qui fait des espèces de petits roll-on pour les ongles géniaux, qui sont aussi un truc que je peux avoir assez souvent avec moi quand je voyage. Et ils étaient au bon marché, ils ont fait un pop-up store. Et donc c'est vrai que là, j'ai dû aller me faire les ongles deux fois avec eux. Et voilà, mais je crois que c'est la dernière fois. En fait, il faut vraiment. J'ai pas un endroit que j'aime spécialement à Paris pour le faire.
Okay.
Mais c'est vrai que là, quand j'étais à Tokyo, je me dis que je devrais prendre rendez-vous chez Uka parce que donc l'endroit est génial. Et puis en plus, ils font un truc pour les cheveux géniaux. Mais en fait, j'ai pas le temps.
Alors là, on passe à la dernière partie, les questions en vrac. Donc, question en vrac, c'est tu me réponds un peu du tac au tac, quoi, phrase.
En fait, j'ai pas d'idée. Vas-y.
Quel est le moment où tu es la plus heureuse ?
Eh bien, quand tous les membres de ma famille sont autour de moi, ce qui n'arrive pas forcément souvent quand on a un mari qui voyage beaucoup et des enfants adolescents. Mais donc là, il y a un petit maman. Mais heureusement, ça peut être un maman qui peut venir tous les jours d'une bonne semaine.
C'est vrai.
À certains moments de la journée. Mm-hmm. Et donc là, je trouve qu'il y a une impression de plénitude et du bonheur d'être ensemble. Ouais.
Lorsque tu as besoin de souffler, quel est le lieu idéal pour toi ?
Être dehors.
Dehors, jardiner.
En fait, j'aime être beaucoup dehors. Oui, alors je jardine, mais parce que c'est une façon d'être active dehors, en fait. Mais j'aime être dehors. Et par exemple, là, j'ai repris le vélo et ça me rend tellement heureuse. En fait, je trouve qu'on vit trop enfermé. En fait, ma journée idéale est peut-être 70% du temps dehors, 30% à l'intérieur. J'aime pas du tout être à l'intérieur. Et donc, jardiner, voilà, et être sur mon balcon, par exemple, c'est fou à quel point... c'est un facteur d'apaisement. Et par exemple, quand je travaillais beaucoup, quand on a ouvert Bully, je travaillais 6 jours sur 7 avec Ramdam, parce qu'on était une toute petite équipe. Et la joie des boutiques, c'était d'être ouvert 6 jours sur 7. Et donc, ma mère rigolait beaucoup. Elle disait, j'aurais jamais cru que j'étais tellement contente de la fermeture obligatoire du dimanche.
Ouais, c'est sûr.
Et je rentrais le soir, et on a ouvert en avril. Et donc, après, arrive le printemps. Et j'arrosais les plantes, et je sentais mon niveau de stress physiquement descendre. C'est fou, hein. En fait, il y a une espèce de... C'est presque, pour moi, c'est méditatif. Et en fait, c'est vrai que marcher dehors, alors pas forcément dans Paris, parce que Paris peut être un peu
bruyant,
mais par exemple, même marcher dans un parc ou marcher dans un square parisien, je trouve que déjà, on se sent très bien. Et moi, c'est vraiment ma forme de méditation. C'est être le plus près du vert. Le plus près du verre possible. Après, si on est à la campagne, au bord de la nature. Et c'est vrai qu'un des très beaux cadeaux d'avoir vécu au Maroc, c'est que la nature est extraordinairement présente. Et c'est vrai que ça, c'est magique. On se rend compte qu'ici, on est très coupé.
Et quand tu dis que tu jardines, c'est un potager,
C'est sans fin, c'est ma vie rêvée. Donc je veux dire donc j'ai effectivement, sur le balcon, je suis assez limitée en termes de choix, mais c'est quand même un balcon avec une petite taille, donc je fais beaucoup de choses. Ma passion, c'est les plantes grimpantes, parce que j'aime beaucoup la façon dont elles partent, la façon dont elles retombent. Je trouve ça assez beau, donc j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup les rosiers aussi. Après, sur le balcon, je vais faire des herbes aromatiques, des tomates, parce que mon mari adore ça, et puis peut-être certains certains pois. Et après, j'ai la chance d'avoir une maison de famille à la campagne où là, il y a un vrai potager et où là, je peux, voilà, et où là, je peux choisir et puis je peux planter, etc. Et c'est vrai que ça amène aussi une autre relation au temps qui est très apaisée parce que vous êtes forcément content de voir toutes les saisons arriver. Parce qu'en fait, au creux de l'hiver, vous voyez les premières choses qui commencent à apparaître. Donc ça, c'est assez magique. Et puis, c'est le moment où vous pouvez planter. Donc ça aussi, c'est magique. Et puis après aussi, vous vous rendez compte le temps que les choses prennent.
C'est vrai.
Donc ouais. c'est une vraie école et ça a beaucoup changé ma relation au temps.
À côté de ça, il n'y a pas de yoga, pas de méditation, c'est vraiment...
Non, alors j'aime bien le yoga, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas de cours à Paris. Mais comme j'ai une sœur qui vit en Inde et que j'ai été la voir beaucoup, j'ai dit, mais déjà arrivé voilà, de faire des cours quotidiens quand je vais là-bas. Et après, et méditation, non, c'est pas mon truc pour l'instant, ça viendra peut-être. Et non, je fais du pilates depuis maintenant 15 ans, que j'aime beaucoup. Et j'en fais une fois par semaine, voilà, c'est un petit peu tout.
Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent ?
En fait, ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont les gens vivent leur vie, en fait. Je trouve ça très intéressant et je trouve que, par exemple, les livres, les biographies de femmes, voilà, et donc c'est vrai que, par exemple, je trouve que, alors, c'est celui dont je me souviens maintenant, mais quand on voit le livre de Françoise Gillot, Ma vie avec Picasso, qui est très étonnant, où il y a aussi une auteure, alors, elle est anglo-autrichienne, je crois, qui s'appelle Elisabeth von Arnim, qui écrit sur les jardins, sur les chiens, etc., et qui a une très jolie façon d'écrire, et c'est plutôt dans ça, mais ça peut être, voilà, ça peut être tout simple, enfin, ça peut être aussi des choses comme Simone Veil, etc., mais ce sera plutôt par le biais des livres, et par le biais dont elles parlent de leur vie, en fait.
Mais quels sont les éléments clés de la réussite pour toi ?
Les éléments clés de la réussite, c'est toujours... Voilà, enfin, pour moi, l'élément premier de la réussite, c'est d'avoir la chance de faire ce qu'on aime, en fait, et de pouvoir en vivre. C'est quand même un très grand cadeau quand vos journées ressemblent à ce que vous voulez qu'elles soient. Donc ça, c'est génial. Donc moi, je trouve que quand on a la chance de pouvoir avoir un projet personnel qu'on peut faire et qu'on peut animer, voilà. Et après, évidemment, si on a la chance d'avoir construit une vie avec des gens qu'on aime aussi, c'est évident. Après, les autres critères sont très personnels.
Alors là, c'est la dernière question. Quelle est ta philosophie de vie aujourd'hui ?
Ça, je sais pas du tout.
Avec l'expérience, le recul, sur tout ce que tu as mis en place.
Non, pas encore 70 ans.
T'as quand même monté
C'est pas si mon expérience.
T'as quand même monté grande. Deux sociétés.
Oui, effectivement, j'ai eu des hauts et des bas, donc j'ai pu expérimenter les deux. Quelle est ma philosophie ?
Avec une vie familiale accomplie.
La vie est surprenante et le chemin est surprenant. Et parfois, on ne voit pas très bien
où on va.
Ouais. Et en fait, il faut essayer de garder son propre cap. Et c'est ça, en fait, un petit peu. Et parfois, c'est vraiment pas plus que, malheureusement, un pied devant l'autre. Et parfois, on voit un peu plus loin que le premier pied suivant. Mais en fait, ça n'a pas tellement d'importance.
Ouais. Puis parfois, c'est des bonnes découvertes, en fait, même si on s'y attendait pas.
Oui. Et puis, en fait, on apprend. Enfin, voilà. Après, là, effectivement, la leçon d'avoir une vingtaine d'années d'expérience professionnelle et d'autres, c'est qu'effectivement, on voit que tout fait partie de l'expérience. Mais quand on vit une expérience difficile, forcément, on préférerait l'éviter.
C'est sûr.
Mais en fait, ça fait partie du chemin. Et après, ce qui continue, c'est qui compte, c'est d'avancer. C'est de ne pas s'arrêter en se disant...
Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditrices, plus que nos auditeurs ?
Merci, et puis surtout, venez pousser la porte de chez Bullier. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Bullier, c'est l'impression que j'espère que les gens auront, c'est tout d'un coup, quand on pousse la porte, le temps s'arrête. Et moi, c'est ça que je trouve agréable dans nos boutiques, c'est l'idée qu'on est dans un moment privilégié.
C'est vrai. Je termine toujours les podcasts avec une petite chanson. Si tu devais choisir une chanson qui te représente un petit peu, ce serait laquelle ?
Non, je ne sais pas du tout.
Ça peut être celle que tu veux.
Ah, je veux dire très bien. Moi, j'aime La vie en rose.
D'accord, très bien. Mm-hmm. Bon, voilà. Écoute, ce podcast est terminé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt. Au revoir. Quelque chose, il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.